venir pour vacances et c'est la raison pour laquelle je vous donne un message aujourd'hui. Et c'est un privilège que j'ai, je remercie le pasteur de me faire confiance. Et d'autre part, j'aimerais vraiment vous communiquer quelque chose de mon cœur. Et je prie le Seigneur que, voilà, non seulement que, eh bien, que je ne vous ennuie pas, mais surtout j'espère que ce que j'ai sur le cœur eh bien, va vous toucher aussi. Donc, je voudrais parler d'une facette de la crainte de l'éternité. Ou on dit aussi la crainte de Dieu. Le départ de cette réflexion a été à la fête de la de consécration de Sidi, notre pasteur Sidi, que beaucoup d'entre nous ont vécu dernièrement, donc la célébration. Tout dans la consécration fait référence en fait à la crainte de Dieu. Et la consécration, c'est un rituel relié à l'alliance à Dieu. Quand on consacre, c'est qu'on entre dans une alliance avec Dieu. Et elle est faite au départ, dans l'Ancien Testament, cette alliance elle est faite avec la maison d'Israël. Donc Dieu parle à son peuple, et c'est en fait une catégorie de personnes de la maison d'Israël qui pouvait être consacrée au Seigneur, au service du Seigneur. Pour être consacré, eh bien, il faut répondre à l'appel de Dieu. Et notre pasteur Sidi, ayant répondu à l'appel de Dieu, en conséquence, il est consacré, donc mis à part, pour le service de Dieu. J'aimerais, à l'occasion de ce message de ce matin, rappeler que chacun et chacune d'entre nous, en fait, est appelé au service de Dieu. Il y a le service pour Dieu, comme les pasteurs, les prophètes, etc., qui sont au service pour Dieu, mais il y a la consécration à Dieu. C'est nous qui nous mettons à part pour Dieu. Parce que Dieu veut se faire un peuple sur cette terre. Et il veut que ce peuple, en fait, soit consacré. Que ce peuple soit saint comme lui est saint, c'est-à-dire que ce peuple se mette à part. C'est dans cet esprit que je vais essayer de vous vraiment de vous faire passer ce message en rendant attentif au fait que chacun, chacune d'entre nous est appelé à se mettre à part pour le service. Notre seule responsabilité par rapport à cet appel, c'est de répondre oui ou non. Paul nous dit dans Romains 12, les versets 1 à 2, je ne sais pas si si vous voulez le lire avec moi, vous pouvez prendre dans vos notes. Romains 12, le verset 1 et 2. Il est écrit : Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il est important de comprendre de quoi on parle. Parce que quand on dit « bon, ben, il a été consacré, nous sommes consacrés », donc on est consacré à Dieu, mais en fait, qui est Dieu, quelque part? Alors, souvent dans la parole de Dieu, il est question de la crainte de l'éternité, de la crainte de Dieu. Et c'est un thème qu'on retrouve à de nombreuses occasions dans la Bible. Et bien que ce thème soit absolument positif, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon, quelque chose de bon et de désirable, ben, il fait par ailleurs bien du tort pour bien des personnes. Quand on parle de la crainte de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah voilà, ce Dieu-là, je le crains, il va me frapper, il va me sanctionner, il m'interdit de faire ceci, ce Dieu-là m'interdit de faire cela. » Donc dans l'inconscient collectif, en fait, Dieu est un empêcheur de tourner en rond. Dieu est un trouble-fête, en fait. et de ce thème, quelque part, n'a absolument rien à voir avec cette compréhension des choses. Dans la Bible, il y a comme ça beaucoup de mots hein, que l'on utilise et qu'on a de la peine à bien comprendre. Je pense même à baptiser, hein, baptême, qui est un nom d'origine, en fait, baptiso du grec. Et puis, en fait, on l'a mis en tel quel en français, et on dit, bah, on va faire un baptême, et en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on dit, ce qu'on fait exactement, puisque dans le monde chrétien, on se bat sur l'application du baptême. Si tu as fait le baptême comme ça, il n'est pas bien. Si tu as fait le baptême qu'avec un peu d'eau, ce n'est pas bien. Si tu as fait comme si ça, c'est bien. Voyez. Donc, il y a une compréhension, quelque part, dans le monde chrétien, qui est malheureusement, en fait, dépendante de l'endroit dans lequel on a appris la chose et on a mis en application la chose. Donc ce qu'on lit a été traduit du grec en général, qui lui-même est traduit de l'hébreu, et parfois on a gardé des mots dans le premier langue d'origine. Donc, on lit par exemple des récits, des prières, des enseignements qui viennent d'une autre langue, d'une autre culture, et parfois on ne sait pas comment les appliquer, parce que justement, les mots, quand on les traduit, n'ont pas toujours le même sens, la même profondeur. Donc, par exemple, la chute d'Adam et Ève. Vous voyez, quand on lit la Bible et qu'on commence à parler de la chute d'Adam et Ève, littéralement, on voit quelqu'un qui est tombé. La chute est tombée, il a dû se faire mal, etc. Et en fait, c'est difficile de comprendre que la chute d'Adam et Ève, ça a à voir avec le péché et que ça a des conséquences énormes si on n'explique pas clairement. On a la même chose avec les relations homme-femme, Adam et Ève. Quand on traduit la relation qu'il y a entre Adam et Ève, et qu'on voit au départ ce que Dieu a voulu dire en hébreu par rapport à cette réalité-là, en fait, très souvent, on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté de la plaque. Quand il dit qu'ils sont un, qu'ils ne peuvent plus se séparer quelque part. Que si on le sépare et qu'on se met avec quelqu'un d'autre, etc., ça devient compliqué. Et c'est pas que c'est bien, je ne suis pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je suis en train de me rendre attentif au fait que, selon comment la culture dans laquelle on est, on peut rejeter la parole de Dieu, parce qu'en fait on n'a pas compris ce que Dieu au départ a essayé de nous dire. C'est difficile aussi d'expliquer ça. Dieu qui est tout puissant, comment a-t-il de la peine à vous expliquer les choses? Alors moi, ce que je dirais, c'est que Dieu tout-puissant, Dieu parfait, Dieu pur, Dieu saint, il se rend imparfait pour nous communiquer les choses, parce que si lui nous les communique dans sa perfection, on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a dû, quelque part, en fait, même un peu, quelque part, en fait, sacrifier finalement son idée, pour que nous comprenions et que nous l'acceptions. Une des raisons pour laquelle il est difficile de comprendre la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est que ce mot, en français courant, ou même en anglais, ou même en italien, etc., il suggère le fait d'avoir peur de Dieu. La crainte, c'est oui, je crains que, la définition, selon la définition du mot crainte, selon le dictionnaire, c'est tenir pour possible ou probable l'existence ou la venue de quelque chose qui inquiète. Je crains qu'il y ait de la pluie tout à l'heure. Ou je crains de tomber en panne en voiture. Je crains d'avoir à sortir en plein orage. Je crains de me faire flasher par un radar en voiture. Vous voyez ? Et c'est la même crainte par rapport à Dieu. Voyons dans la Bible ce qu'il en est. En Genèse 3, 7, il est dit, je vais lire le texte, de Genèse 3, les versets 7 à 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, donc c'est situé, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ils viennent de désobéir à Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Vous entendez, vous voyez un peu, le jour avant, Adam et Ève parlaient avec Dieu en face à face. Dieu, le soir, descendait dans le jardin d'Éden, parlait avec Adam et Ève, et il parlait en face à face. Il désobéit à Dieu, et tout à coup, il entend la voix de Dieu, et il va se cacher la peur. Il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord ? Et puis, je suis nu, etc. Et on pense que c'est la nudité du corps, etc. Et en fait, vous voyez, en français, on dit, voilà, il était nu et tout. Mais non, c'est qu'il y a eu un... Il y a eu un... Comment on peut dire ça ? C'est comme si dans sa tête, quelque chose s'était déchiré. Donc, tout d'un coup, il a vu quelque chose. Il a vu que quelque chose avait changé. Il a vu que Dieu ne pouvait plus s'approcher de lui dans l'état dans lequel il se trouvait. Il a vu qu'il se sentait tout d'un coup, en fait, mal devant Dieu. Qu'il n'était pas à même de se mettre devant Dieu. Je prends un autre texte, dans Exode 3.2, le chapitre 3. C'est la rencontre de Moïse avec le buisson ardent. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Je voudrais quand même juste en introduction dire que Moïse était déjà... Il voulait rencontrer le Seigneur. Il en avait entendu parler. Il savait qu'il avait une mission. Il avait à cœur un projet. Et en fait, quand il a quitté l'Égypte, il a rencontré son beau-père Jéthro, il y avait quand même toujours quelque part une... Je dirais une nostalgie ou une langueur par rapport à une mission qu'il avait accomplie. Et on lui a parlé de la montagne sur laquelle Dieu était. Et c'est par rapport à cette réalité-là qu'il a été interpellé, il a été intéressé. Et donc un jour, donc, dans chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel dit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le sol, le lieu sur lequel tu te tiens, est un lieu et une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Moïse, à ce moment-là, se cacha le visage, car il craignait que de regarder Dieu. Vous voyez, on est dans la jeunesse, tout au début, il y a déjà cette crainte qui apparaît, cette peur, quand il y a rencontre avec Dieu. Moïse, on voit aussi d'une manière magistrale, parce que vous connaissez, il y a, vous connaissez le récit, vous voyez effectivement qu'à un moment donné, en fait, il est écrasé par la vision qu'il a devant lui. Il est confondu par ce qu'il entend et il ne peut pas faire autrement que finalement de se cacher le visage, etc. Et puis je prends un troisième texte dans l'Apocalypse pour montrer que même dans le Nouveau Testament et à la fin du dernier livre, j'ai pris la Genèse, je prends le dernier livre, il y a aussi cette même réalité avec l'apôtre Jean. Je suis donc dans l'Apocalypse 1 à partir du verset 10. Le texte est un petit peu plus long, mais c'est juste pour vous montrer. Ce même Jean-là, il a vécu avec Jésus. Il avait la tête à lui sur le torse de Jésus. Il connaissait ce Jésus. Et écoutez maintenant comment il va parler de ce même Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait... Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voilà la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel dans la parole de Dieu. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas peur, etc. C'est en fait une rencontre avec quelque chose qui nous bouleverse. C'est, voilà, je l'ai dit suffisamment, je passe. La crainte de l'Éternel, eh bien, elle contient l'image d'un Dieu terrible, d'un roi redoutable. Dieu est un être qui procure la crainte. Et on voit dans la Bible que l'homme, lorsqu'il se trouve en face de Dieu, il est rempli de... Il ne sait pas quoi faire, il est comme tétanisé. Vous avez ça aussi dans différents prophètes, hein, quand ils ont vu Ésaïe, Zacharie, vraiment, il y a quelque chose de particulier, et c'est en revenant sur ces descriptions qu'on peut mieux comprendre finalement, effectivement, que le Dieu est le Dieu que l'on adore est tout autre. Le Dieu que l'on adore est un Dieu saint, c'est-à-dire différent de nous-mêmes. Le Dieu que l'on sert, en fait, ce n'est pas un homme comme toi et moi. Le Dieu que l'on sert, en fait, il est, voilà, il dit lui-même, dans la parole, il est dit que si on voit Dieu, on peut mourir. Ça veut dire que lorsque Dieu se manifeste, il se révèle à l'homme, il provoque une réaction. Et on le voit autant, donc on l'a vu avec Adam, mais on l'a vu avec Moïse, on le voit avec Jean dans l'Apocalypse, et en fait, on le voit aussi dans leur vie de tous les jours, une personne qui a eu un contact avec le Seigneur. Je dis ici, chaque fois que Dieu rencontre l'homme, il lui dit ne crains pas. Je me rappelle lorsque je suis arrivé à Bethanie, je parlais un petit peu de moi, de Véronique aussi. Eh bien, j'étais en fait comme Moïse, c'est-à-dire à cette époque, on cherchait Dieu. À cette époque, c'était avant le monde 2, Véronique est d'origine juive. Parce que son papa, elle a toujours combattu un petit peu au niveau de la foi, mais pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus, etc. En étant recherché moi-même, je suis catholique, parce qu'au Katanga-Congo, quand les Belges sont venus, ils ont fait devenir Belges, mais on est aussi devenu automatiquement catholique. Donc on est catholique du peuple, à la naissance. Et donc j'ai toujours été aussi dans un environnement où je cherchais le Seigneur. En tout cas, au nom de... On est arrivé, par la grâce de Dieu, dans une église évangélique. Et j'en étais vraiment, vraiment, en fait, je vais essayer de faire court cette histoire-là, parce qu'il y aurait tellement de belles, bonnes choses à dire, mais quand on est arrivé dans l'église, où les gens qui nous ont amenés au Seigneur nous ont conduits, en fait, c'est effectivement pour moi, en tout cas ce qui me concerne, c'est effectivement comme Moïse, c'est-à-dire, je connaissais Dieu, je voulais le rencontrer, j'avais envie de, quelque part, en fait, on m'avait dit, viens, va prier pour toi, que tu sois guéri, parce que je voulais avoir ce handicap que j'ai. Et en fait, je suis allé crânement, vous voyez, comme j'ai dit, comme il faut, je suis allé, j'ai dit, on va voir le pasteur, il va prier pour moi, puis je vais être guéri. Et en fait, quand je suis arrivé dans cet environnement, Bethanie, à Etublan, c'est en Jérusalem. Le terrain sur lequel l'église se trouve, c'est un terrain qui est écrit à la mairie de Etublan comme en Jérusalem. Et le nom de l'église, c'est Béthanie. Les amis, on est arrivé, en fait, on est arrivé au pays, quoi. On était en Israël. J'étais venu en disant, voilà, je vais voir le pasteur. On est arrivé dans la salle, je me suis senti mais écrasé sur ma chaise. Tout d'un coup, je me suis rendu compte, en fait, que c'était vraiment prétentieux de venir à l'église et de demander, allez, priez pour moi parce que j'ai ceci ou cela. Tout d'un coup, j'ai eu une conviction de péché. J'ai une conviction et une certitude que j'étais sale devant Dieu. Et j'ai eu honte de demander la prière. Le pasteur est venu vers moi, tout, bonjour, bonjour, il ne me connaissait pas. Et puis il a fait son... À cette époque, on parlait de speech. Ouais, il a fait son speech. Et comme ça, après, on sera tranquille. Et puis il a commencé à parler. Mais il a parlé, en fait, c'était comme s'il lisait dans un livre ouvert. Et il a dit des choses qui m'ont tellement touché. Il a dit des choses qui m'ont tellement... Au moment où il voulait prier, j'ai dit non. Je vais d'abord faire du jeûne, faire des prières, et ensuite je reviens. Il a dit non. Aujourd'hui, je comprends ce que signifie ce nom. Aujourd'hui, je comprends parce que je dis, quand vous voyez Jésus qui marchait dans en terre de mission, il allait vers les gens, il ne demandait pas de faire du jeûne, il ne demandait pas de se repentir, il ne demandait pas. Il donnait le miracle, il donnait une parole, et la personne était bouleversée. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, ce jour-là. Eh bien, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai vu là où ça n'allait pas, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse, et en fait, je n'ai plus jamais été le même. Je suis sorti de là, je n'étais plus le même. Je pense à l'Église. Quand il a eu le buisson, il n'était plus le même. J'ai un amour pour le Seigneur. Et parfois, cet amour dérange. Je parle du Seigneur. Et souvent, j'en parle trop. Je veux expliquer des choses. Tu me dis, oh, mais calme-toi, toi, c'est excessif. On a perdu, Véronique et moi, des amis. Parce qu'on était trop. Etc. Vous dire, voilà. Deuxième, pour la crainte de Dieu, c'est vrai que d'un côté, ça m'a peur. Mais de l'autre côté, c'est lui donner l'honneur et la révérence qui lui est due. Pour cela, il nous faut comprendre la valeur de la crainte de Dieu. Parce que cette compréhension peut entraîner toutes sortes de bénédictions ou malédiction. Pour obtenir les bénédictions, beaucoup de chrétiens cherchent à se rapprocher de Dieu en lui faisant toutes sortes de promesses. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te donner dimanche à l'église. Seigneur, si tu me donnes la santé, je te promets que je ferai ceci et cela. Seigneur, je te donne de l'argent et tu me donnes puisque je te donne 10%, tu me donnes le 90% en retour. Seigneur, vous voyez, beaucoup de gens vont vers le Seigneur et par leur action, par leurs promesses, veulent obtenir des choses. Ce ne sont pas non plus les actions de Dieu qui vont nous assurer des bénédictions. Ce n'est pas parce qu'on prend du temps à prier et jeûner que l'on va obtenir. La preuve, c'est que vous allez à Lourdes et vous voyez des gens qui prient. Et vous allez en Inde, vous voyez, les gens prient pour des statues, etc. Et même en Suisse, on peut aller à des endroits où les gens prient. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut que tu obéisses à sa parole. Le Seigneur veut que tu suives ses recommandations. Et tu verras les choses qui vont changer. Le moyen le plus sûr pour être béni, c'est vraiment obéir à sa parole. Par exemple, je prends le premier proverbe, le proverbe 1, les versets 7 à 9. Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel, peut-être que vous pouvez dire la suite, est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère.
car c'est une couronne de grâce pour ta tête et de parure pour ton cou. Crains l'Éternel. Crainte, j'arrive tout de suite à l'explication. On peut prendre aussi comme référence Josué, au premier chapitre, le livre de Josué, les versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, te prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Oh Seigneur. Donc, quand on parle de crainte de Dieu, en fait, on parle d'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, mais plutôt avec l'amour de Dieu pour nous. Dans la crainte de Dieu, on peut voir Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Dieu vient vers nous par amour. Il vient, nous donne sa loi. Il nous dit, il n'y a pas besoin que je sois avec vous tous les jours. Vous avez ma parole. Vous avez mes recommandations. Les amis, si on est dans le malheur et dans l'affliction, etc., c'est parfois simplement parce que des fois on se dispute entre l'homme et la femme, le mari et sa femme. Une bonne dispute, on se fait la tête, etc., etc. Et qu'est-ce que Dieu dit? Vous êtes disputé, c'est normal. On est encore dans un corps de péché. Mais pardonnez-vous les uns les autres. Et étonnamment, quand on se pardonne, et bien on retrouve le bon sens et on continue. D'autres encore, c'est simplement parce que, en fait, ils veulent, entre guillemets, tricher. Au lieu d'aller droit à ce qu'ils doivent faire, ils prennent des chemins de traverse. Et tout d'un coup, ils sont dans le malheur et disent « Oh, Dieu m'a abandonné ». Mais non, Dieu te dit de rester droit, de rester honnête, de rester fidèle, de rester, etc. Je ne vais pas faire une litanie, parce que la Bible, vous l'avez comme moi je l'ai. Donc, en fait, en relisant simplement ces choses-là, ça peut vous encourager. Ce n'est pas le fait de prier énormément. Ce n'est pas le fait de jeûner énormément. Ce n'est pas le fait de promettre d'être un meilleur homme, si. C'est le fait d'écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va te transformer. C'est la parole de Dieu qui va faire de toi un autre homme. C'est les conseils de Dieu qui fait que, parce que Jésus lui-même vient habiter en nous. Et en fait, un scoop, les amis, nous sommes tous des petits Jésus en puissance. Nous avons la capacité de Jésus en nous maintenant. Mais comme Adam et Ève au début, le diable nous dit, tu sais, laisse tranquille Dieu. Fais seulement comme tu veux toi, tu verras, ça va aller. Tu n'as pas besoin de Dieu. Et quand on fait ça, Jésus est en nous, on dit, ok, contrôle, vas-y. Mais tu vas dans le mur. Mais vas-y. Ce que j'essaie de vous dire, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'on doit véritablement en fait réaliser que si on s'aime les uns les autres, si on écoute la parole de Dieu, si on agit comme Dieu nous demande d'agir, bon, en fait on serait des missiles de bénédiction pour le monde. On serait des missiles de bénédiction. Des fois, on se salue, oui, ça va. On se voit demain, oui, on se voit demain, puis on ne va pas. Bref, je ne regarde pas parce que quand je regarde, je vous le dis, je l'ai déjà dit quand j'étais là, c'est vrai que quand je regarde les gens, après je ne reste pas sous mon message. Parce que des fois, le regard des gens me dit, ah, je n'aurais pas dû dire ça, ah, je dois faire attention à ça. Je suis un homme sensible. Et je termine. Lorsqu'on obéit à Dieu, à ses commandements, et que l'on respecte sa parole, alors nous avons la crainte de Dieu, d'une part, et nous nous comportons avec sagesse. Psaume 111.10 dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine
seulement je subsiste à jamais. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, ne pas craindre Dieu est un manque de sagesse qui entraîne toutes sortes de problèmes et amène surtout un endurcissement du cœur. Je vous laisse avec ces paroles. Je ne voudrais pas prier pour prier, mais je voudrais vous recommander au Seigneur. Là où je commence à... Je suis dans le troisième âge. Une bonne partie de ma vie, elle est finie, elle est faite. Et je regarde maintenant derrière moi et je vois ceux qui me suivent tout de suite, hein, l'âge de mes enfants, et puis les plus jeunes. Et je dis, mais tout ce que moi j'ai pu vivre, tout ce que moi j'ai pu comprendre, eh bien, je ne peux à la limite même pas le transmettre. Parce qu'en fait, chacun de nous, en fait, on sait mieux que l'autre ce qu'on doit faire. Et on ne tient généralement pas beaucoup compte de l'expérience de l'autre. Et donc, à mon âge, maintenant, je dis, mais Seigneur, je prie pour cette jeunesse, je prie pour ces jeunes adultes. Je prie que, Seigneur, qu'ils ne fassent pas les erreurs que j'ai faites, qu'ils profitent de ce que j'ai pu leur dire. Et c'est tout ce que c'est toute ma prière pour chacun de nous. Voilà. Nous sommes là pour le Seigneur, pour se laisser enseigner par lui. Parce qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous, et non de malheur. Nous sommes là parce que nous voulons faire mieux, nous voulons être meilleurs. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Soyons supporters les uns les autres. Soyons des encourageurs pour les jeunes. Soyons bienveillants, remplis de bonté. On dit, ouais, il est bon comme le pain. Il n'a pas le pain, il est vraiment bon et ça va la faire. Ouais, il était trop gentil pour être honnête. Mais Jésus était tellement gentil.